L'un de vos travaux est exposé à l'espace MDV, rue Baudimont à Arras, jusqu'au 17 juillet. Alors il s'agit d'une œuvre en acier qui s'intitule « Bande à rang ». Mais avant cela, un mot peut-être sur votre parcours.
Je suis une vraie nordiste, née dans le Nord, à Seclin, près de Lille, et très fière d'être nordiste. Donc mon travail artistique correspond à quelque chose qui semble insignifiant pour beaucoup, mais qui, je pense, est essentiel. C'est le hareng. Donc le hareng qui correspond à la pêche dans Dunkerque, Étaples, Berck, voilà, toutes les villes de côte. Le hareng qui a nourri des milliers de personnes, même pendant les guerres, puisque j'ai eu écho de ce que ça a permis aux gens de survivre quand il n'y avait plus rien, il y avait les harengs. Alors le hareng, ça peut être considéré comme un poisson extrêmement ordinaire, plein d'arêtes. Pas terrible, et ben non, c'est fou, c'est entièrement fou. Donc, je vais commencer donc par décrire le hareng. Bon, le hareng, c'est un poisson qui n'est pas élevé, donc qui vit naturellement et en très grande quantité dans la mer, dans les océans, les eaux plutôt froides, donc les eaux du Nord, c'est parfait. Alors, il a que des avantages au niveau alimentaire, puisque voilà, il a des vitamines, des oméga-3. Il n'est pas cher, donc c'est génial. Donc, il peut nourrir plein de monde. D'ailleurs, maintenant, en cuisine, c'est très tendance de faire dans les restaurants étoilés des harengs, des filets de harengs marinés, puisque voilà, la mode est un perpétuel recommencement. Donc, c'était pour tout le monde. Maintenant, ça peut arriver dans des zones plus chics, dirons-nous, ce petit poisson du Nord. Je défends je m'arrête sur des choses simples, de la poésie avec des symboles de vie, puisque le hareng c'est un poisson, et le poisson depuis la nuit des temps, bien avant même les chrétiens, ça a toujours été considéré comme un symbole attaché à la vie. D'ailleurs nous-mêmes, nous venons de l'eau, donc nous sommes quelque part un petit peu dans cet univers aquatique. C'est un petit poisson très simple qui a la faculté, comme les étourneaux dans le ciel, de se regrouper et de faire des espèces d'entités. Je trouve que c'est assez incroyable, assez magique de voir des poissons si ordinaires qui arrivent à se défendre contre des poissons plus gros, des requins, par l'esprit du groupe. Donc quelque part, il y a un petit clin d'œil au groupe, à la richesse de vivre ensemble qui n'est pas souvent mise en valeur. Alors voilà, c'est des choses simples de la vie mais qui sont essentielles. Bon, en plus aujourd'hui on est dans un univers épouvantablement cruel au niveau de la nature, destructeur au niveau de l'homme, puisque les hommes s'amusent à se tuer entre eux, et pourtant la vie, cette petite cellule de vie, bah écoutez, c'est la chose la plus importante qui soit. Donc depuis toujours, elle est attachée au sourire, au fourmillement, à la joie, à la nourriture également. Donc voilà, c'est plein de choses positives. C'est un message de foisonnement. Peut-être certains ont entendu une poésie de Charles Cros qui était souvent apprise à l'école au 19e, c'est Le hareng sort. Donc c'est l'histoire d'un hareng qui est accroché sur un vieux mur avec une vieille corde. Et donc ça fait rire les enfants, et les gens bien pensants sont choqués de cette chose si nulle. Donc le nul n'est pas nul. Je me suis aussi amusée avec un artiste de notre région, puisque la Belgique c'est aussi notre région. Donc un artiste qui s'appelle Ansor et qui a fait un tableau que j'adore qui s'appelle Art Ansor. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil. Et dans ce tableau Art en sort, l'idée c'est que deux squelettes sont en train de manger un hareng, en sort. Donc sachant que les squelettes sont considérés comme, on va dire, les critiques d'art, les gens qui savent bien, et puis le pauvre artiste, et ben c'est le hareng qui est un petit peu détruit. Voilà, c'est des petites choses un peu qui me font rire. À travers le hareng, je travaille sur le poisson. Donc sur un petit clin d'œil des poissons très très anciens, c'est la canthe qu'on a retrouvée Et comme l'homme est toujours aussi brillant, en quelques décennies, il a réussi à détruire ces poissons préhistoriques en très grande quantité dans l'océan Indien. Donc, sans vouloir faire quoi que ce soit en politique, je veux simplement montrer qu'on a besoin de la mer, on a besoin de l'eau, on a besoin d'amour, de vivre ensemble. Voilà, c'est des petits messages peut-être un petit peu ordinaires, mais qui, je pense, sont extraordinaires. Et si tout le monde les mettait dans ses poches, on irait certainement beaucoup mieux. Donc forcément, le hareng, c'est l'eau, c'est le bleu. J'ai une immense attirance pour cette couleur qui est la couleur de l'infini, qui est la couleur de l'eau, mais qui est aussi la couleur du ciel. Donc beaucoup, beaucoup de mes travaux sont dans cette gamme de bleu. Ça va du bleu outre-mer au turquoise, voilà, toute une déclinaison. Les poissons, toute une déclinaison aussi. Alors je m'amuse, bon là j'ai présenté à Arras, grâce à Mireille Desideri que je remercie, donc qui depuis 25 ans présente dans une vitrine ouverte au Kidam des œuvres d'art d'artistes extrêmement différents pour ouvrir chacun, avec connaissance ou sans connaissance de l'art, avoir une ouverture sur qui est l'art. Pas forcément l'art officiel, mais l'art des artistes vivants.
Vous portez un regard philosophique sur le hareng qui incarne, comme vous l'avez dit, un paradoxe contemporain, un symbole Absolument. De vie vertueux finalement, mais peu considéré. Vos premières sources d'inspiration, est-ce que ça a toujours été les fonds marins, l'amour philosophique que vous portez sur la nature ?
Non, pas du tout. J'ai travaillé sur beaucoup de violence, avec des choses beaucoup plus heurtées. Une peinture rouge, noire, avec des cris, des choses lourdes et difficiles. Et plus j'avance, plus j'essaie de m'éloigner de tout ça, parce que ça sert à rien. Donc oui, effectivement, c'est un regard assez philosophique sur le monde, en fait. Hein. Donc, que dire d'autre ? Vous m'avez dit autre chose, mais je ne sais plus.
Oui, dans vos œuvres, justement, vous utilisez beaucoup de paradoxes contemporains, vous utilisez des symboles de vie vertueux, mais qui sont peu considérés. D'où viennent ces sources d'inspiration ?
Écoutez, le premier souvenir que j'ai du hareng, c'était une fête du hareng. Donc, il y a une fête, c'était pas un Dunkerque, c'était là où je suis née, à Seclin. Une fête du hareng, où c'était une fête populaire, mais joyeuse. Les Gilles de Bâche, enfin c'était très 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 gai, et c'est le premier souvenir que j'ai du hareng, donc qui est associé à la joie, à la gaieté, au monde en fait. Donc ça c'est mon premier souvenir. Bon, après pour des conditions personnelles, bon il y a eu effectivement dans ma famille une poissonnerie, donc voilà, ça a peut-être aussi eu une influence sur mon travail. Et puis après, la vie a fait que j'ai fait carrément autre chose, avec beaucoup de poésie, d'humour parfois. Après, il y a des choses que je dis, il y a des choses que je ne dis pas. Après, chacun a sa propre perception. Je pense que l'art actuellement est mal considéré par beaucoup parce que les gens ne comprennent pas. Donc je crois que chacun est en mesure de comprendre une œuvre, qu'elle soit figurative, qu'elle soit non figurative, il faut qu'il se passe quelque chose au fond du cœur, qui est une émotion, qui est quelque chose qui touche, peu importe la façon, que ce soit en peinture, en sculpture, voilà. Mais je suis très très sûre de ce qu'il faut arrêter de mettre l'art sur une feuille d'intelligentsia, de choses réservées à l'élite. Pour moi, l'art est à tout le monde. Voilà pourquoi. Donc, avec des choses aussi ordinaires, ben, j'essaie de faire des choses extraordinaires, on va dire ça.
Votre création Banc de hareng est une œuvre en acier. Est-ce que vous avez pour habitude de travailler l'acier spécifiquement ou alors d'autres matériaux ?
Non, l'acier, c'était... J'ai eu une période où j'ai eu la possibilité de travailler sur de l'acier. Donc moi, on va dire que j'ai fait les dessins et tout ce qui est métallique, c'est pas moi qui l'ai fait, je suis pas capable de le faire. Ça a été traité en informatique et ensuite ça a été découpé au laser. J'utilise des choses abandonnées, j'utilise de la terre, j'utilise du bois, j'utilise tout ce qui est à ma portée. et que je suis capable de transformer. Bon, il y a encore des choses que je pourrais faire que je ne sais pas faire. Mais voilà, donc il y a plein de choses. Je veux dire, la terre, le bois, mon atelier, il est rempli de choses parce que ce sont des choses qui me touchent, donc qui ont un passé, parce que c'est intéressant quand même de rendre un petit peu de vie à des choses qui sont oubliées. Donc simplement avoir un nouveau regard et dire « waouh, c'est beau ». Enfin bon, je pense que la beauté existe. La beauté, elle est en nous aussi. Bon, il n'y a pas que la beauté, malheureusement. Mais bon, on va optimiser le côté positif. Donc, ouvrir les yeux sur toutes les choses très positives. Et bon, c'est vrai, quelquefois, je me mets un petit peu en colère.
Et justement, est-ce que l'art est une manière pour vous d'exprimer cette colère ?
J'ai passé le cap de la colère dans l'art. Je ne veux plus. C'est plus possible. J'ai un passé qui était trop chargé. Je peux plus, donc je préfère être dans les limbes. Je préfère être dans un monde beaucoup plus léger, parce que ça permet de mieux vivre. Non, je veux plus de violence. La violence, vous ouvrez la télé, vous regardez un magazine, ce que vous voulez, c'est épouvantable. Et on a besoin d'autre chose. Quelquefois, bon, en promenant mon chien, je m'arrête et je regarde une fleur. Je dis, qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est des choses toutes simples, mais simplement avoir un regard sur des choses si ordinaires qui sont, comme mon hareng, si extraordinaires. On va dire que c'est un mot important, l'ordinaire et l'extraordinaire.
Quelle est la source d'inspiration la plus loufoque que vous ayez eue tout au long de votre parcours créatif?
Ben sur les harengs, ce qui m'a paru le plus drôle, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le tableau d'Ansor, qui est un peintre belge qui a vécu à la fin du 19e, début du 20e, qui était complètement délirant. Il suffit, vous ouvrez un livre, mais je veux dire, il faisait des gravures, mais c'était pas l'impressionnisme, c'était pas le fauvisme, c'était pas tout ça, c'était du plein délire. Moi, je regarde ça, je suis écroulée de rire. Donc, effectivement, le rire fait partie de la vie, heureusement. Et oui, mais c'est l'œuvre que j'ai faite, j'ai un tableau, donc. Que je ne veux pas vendre parce qu'il me fait toujours rire autant. Donc c'est entre ces deux squelettes qui sont des squelettes carnavaleux, on va préciser, hein, parce qu'on est dans le Nord, hein, un petit côté de Dunkerque quand même. Donc mes squelettes avec des trucs trop rigolos qui sont en train d'essayer de manger un hareng sorte. Ça me fait rire, c'est complètement loufoque. Mais voilà, ça me, rien que d'y penser, ça me fait rire. Donc voilà, c'est une petite chose drôle. Hein. Le plus drôle, et si un jour vous ouvrez, vous regardez même sur Internet Ensor, E-N-S-O-R, et vous regardez les plages du Nord avec des gens qui, entre guillemets, qui pètent sur la plage de Tetris. Et ça se faisait au début du 20e siècle, ça c'est... Il n'avait pas peur, le camarade Ensor, il n'avait pas peur. Donc oui, les chansons, les artistes ont cette chance-là, en général, ils n'ont pas trop peur. Hein. Soit ils suivent les directives pour séduire et vendre, soit ils s'amusent très fort. Et bon, il y a beaucoup d'artistes qui s'amusent très fort. Hein. J'en connais beaucoup. Donc, et c'est vrai qu'avec les années, plus ça va, plus il faut prendre un petit peu de distance et rire de beaucoup de choses.
Est-ce que pour vous, l'art est un moyen de transmettre des messages pédagogiques?
Absolument. Oui, c'est l'art, c'est de toute manière ça peut être ouvert. L'art, c'est bon, bien sûr la peinture puisque je suis artiste, mais c'est la musique, c'est la musique qui rend l'homme meilleur, semblerait-il. C'est la danse, toutes les expressions de l'homme sont là pour essayer d'avancer, je dirais, dans le bon sens. Donc l'art, théoriquement, essaie de dénoncer. C'est vrai qu'il y a l'art qui dénonce très très fort, et bon, en ce moment, c'est un petit peu ce qu'on voit avec beaucoup de violence. Maintenant, j'ai passé ce cap-là, ça plaît pas, c'est pas grave. Donc, un petit peu de légèreté. Si on avait tous un petit peu de légèreté dans notre vie, je pense que voilà, vous êtes arrêté dans la vitrine parce que c'était soft, c'était tranquille. Et alors, dans la vitrine de Mireille Desidéri, il se passe quelque chose d'assez magique. C'est que mon banc de poisson, il est avec les reflets, on dirait qu'il est au milieu d'une maison à étages. Je trouve que c'est très très joli. C'est plein de poésie. Donc voilà, que ce soit sur terre, que ce soit dans l'eau, voilà, l'art est partout et nous permet, si on commence à avoir un regard plus ouvert sur tout ça, de vivre beaucoup mieux, beaucoup plus légèrement. Et en avançant, on voit de plus en plus de belles choses.
Je suis toujours en compagnie de l'artiste seclinoise Annie Hackett, qui expose l'une de ses œuvres à l'espace MDV d'Arras, Bande Aran, jusqu'au 17 juillet prochain. Est-ce que vous vous inspirez de techniques artistiques déjà existantes?
Donc, j'ai découvert une technique japonaise qui s'appelle du jiotaku, donc qui est, comment dire, qui consiste à faire des empreintes de poissons sur des poissons crus. Alors, ça se passait au Japon avant la photo, donc avant l'époque Edo, donc peut-être au XVIIIe siècle. Et un jour, il y a un monsieur qui a simplement fait une belle pêche et qui s'est dit waouh, quel beau poisson, c'est dommage qu'on en oublie la beauté. Et l'idée lui est venue de faire une empreinte. Alors, est-ce que c'était avec de l'encre de sèche ou est-ce que c'était avec de l'encre de Chine? Je ne sais pas. Actuellement, ça se fait à l'encre de Chine. Et donc, sur un poisson cru, ben, vous posez de l'encre de Chine, je simplifie un peu quand même, et vous reprenez l'empreinte, donc un poisson qui est mort retrouve une autre vie. Et puis ce que j'aime, c'est je m'amuse beaucoup quand je crée à lui mettre par exemple une expression de colère, une expression de joie, un délire, donc voilà, suivant mes humeurs. Donc ça, ce sont les jiotaku. Donc en technique japonaise, ce que j'aime aussi, ce sont une technique pour la terre, donc ça s'appelle du raku. Et le côté magique du raku, c'est que c'est pas l'homme qui décide, c'est le feu qui va décider du résultat final. Donc vous pouvez travailler, vous pouvez mettre des émaux, et à la fin, donc il y a tout un processus de cuisson, puisqu'il y a deux cuissons, beaucoup de violence parce qu'on les enlève à 1000 degrés, on les plonge, les œuvres, on les plonge dans des copeaux, ça s'enflamme. Faut couper les flammes, ensuite il faut les faire un petit peu macérer, il faut les plonger dans l'eau froide, donc c'est assez violent et c'est très magique parce que vous commencez à frotter votre pièce et vous faites une découverte. Et je trouve que c'est extraordinaire. Donc c'est bon, vous participez, mais c'est le feu qui va avoir le résultat final de la création. Et c'est voilà, c'est l'aléatoire qui est. Donc c'est pas l'homme qui commande. Je pense que voilà, c'est dans les leçons de modestie de savoir que les choses peuvent se passer sans nous. Voilà, donc ça c'est le jiotaku, le raku, et puis bah, après toutes les techniques, parce que bon, je suis très gourmande en art, j'aime bien tout apprendre. Et encore, là où je suis moins douée, c'est en informatique, ça, faut reconnaître, là c'est pas terrible. Mais je peux pas être douée partout. Voilà, un petit peu ma façon de voir l'art et d'apprendre, parce que voilà, on est des on a la chance de pouvoir apprendre toute sa vie. Et dans l'art, il n'y a pas de retraite. Il y a la passion qui dirige tout. Et la grande chance, c'est que même quand vous allez mal, grâce à l'art, eh ben, vous pouvez continuer votre cheminement personnel et personne ne peut vous déranger. Donc, c'est une grande chance. Et donc, c'était Louise Bourgeois qui disait « On est artiste, on ne le choisit pas ». Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Et c'est très salutaire. D'ailleurs, actuellement, même les gens qui vont mal, on utilise en règle générale des techniques avec des... Comment ça s'appelle pour les gens qui sont malades, on les fait dessiner, peindre pour qu'ils aillent mieux. Donc c'est une thérapie tellement simple et tellement puissante. Donc j'ai moi-même participé à des ateliers avec des gens âgés en EHPAD et ils étaient vraiment fascinés par ce qu'ils faisaient et voilà, ils continuaient, c'était... Dès qu'on appuyait sur le bouton et s'était enclenché la féerie, la magie de la main, du crayon, du pinceau se mettait en place et les résultats étaient toujours à la hauteur. Maintenant, la façon de recevoir l'art, de le percevoir d'une personne à l'autre est très très différente. Donc,
Est-ce que justement, au travers de votre œuvre qui est exposée à l'espace MDV rue Baudimont à Arras, vous souhaitez justement rappeler ce message-là que l'art est accessible?
Oui, et en fait, effectivement, pour moi, l'art est accessible. Et donc, dans la vitrine de Mireille Desvidéry, vitrine, puisque c'est ça, c'est des initiales, c'est le souhait donc, de cette grande dame d'Arras, c'est d'ouvrir l'art aux qui dames. Donc, c'est pas la peine de faire des études, c'est simplement d'ouvrir le regard à des créateurs extrêmement différents, parce que ça va d'un amoncellement de boîtes de conserve à une sculpture, à une peinture. Donc de nombreux, ouais, ça fait 25 ans qu'elle a cette passion de entièrement bénévole. Je trouve que c'est merveilleux. C'est une artiste elle-même et qui cherche à faire vivre l'art pour chacun. Voilà, donc c'est un beau message et je fais un grand merci, un grand bravo. Donc après moi, il y aura encore d'autres artistes qui viendront. Il faudra aller voir la vitrine puisque c'est toujours extrêmement différent.
Peut-être pourrait-on décrire l'œuvre pour les Arageois qui ne l'auraient pas encore contemplée.
C'est un banc de poissons, donc un peu stylisé. Il correspond justement à ces espèces d'entités qu'on voit de poissons qui se regroupent. Et comme avec un sonar, ils sont toujours à peu près à même distance sans se toucher pour avancer. Et voilà, je trouve que c'est comme les oiseaux. On voit ça quelquefois, des entités, des tourneaux dans le ciel qui font des trucs. Vous êtes là, vous regardez hypnotisé et je trouve que c'est hypnotisant. Ce sont des beautés de la nature, ce sont des merveilles de la nature. Et voilà, je m'arrête peut-être sur des choses simples, mais bon, la simplicité, c'est quelquefois très bien.
Est-ce que vous avez voulu représenter uniquement des poissons ou alors le monde marin tel qu'il est aujourd'hui avec les coraux?
Ah bah alors là, on arrive sur un sujet où il y a beaucoup à dire, hein, parce que là, l'exposition que je prépare justement, c'est sur les fonds marins. Et on a la chance, c'est la Terre, donc c'est la planète bleue, qui est une planète extraordinaire, puisque la vie est partout, dans les abysses, comme tout en haut. Mais l'homme est en train de courir à sa perte en détruisant les fonds marins et en jetant des choses comme ça. Donc là, je vais faire une installation certainement à Tardingan sur les choses qui devraient pas être dans l'eau et qui existent. Je sais pas si vous savez, par exemple, qu'il y a encore dans la mer du Nord des tonneaux remplis, je sais plus si c'est de l'acide, et au fond de la mer. Et un jour, donc, le métal sera entièrement rongé et cet acide va détruire sans doute beaucoup de choses. Et voilà, on retrouve du polystyrène, on retrouve des balles, on retrouve n'importe quoi, des chaussures, sans parler des produits toxiques en tout genre. Donc, simplement demander à chacun de respecter notre planète. Voilà, moi, j'essaie de le faire à mon niveau. Et je pense qu'il ne faut pas vouloir. Enfin, bon, il faut simplement déjà s'arrêter à son propre niveau et essayer de vivre le mieux possible. Et d'aider les autres quand c'est un peu compliqué. Et bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui font des choses assez extraordinaires. Là, j'avais lu des jeunes gens qui avaient réussi à absorber tous les déchets qui flottaient sur l'océan, donc sur des grandes quantités, et récupérer des tonnes de déchets. Ces déchets qui ne devraient pas exister. Ces déchets qui ne devraient pas exister. Donc, voilà, donc c'est des petits clins d'œil. Bon, mon travail, il est entre la poésie et puis de temps en temps, j'aime quand même montrer qu'il faut respecter et aimer notre planète. Je ne comprends pas. J'avoue que je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse être aussi peu intelligent face à notre avenir, parce que bon, c'est notre avenir à nous, c'est l'avenir des nouvelles générations. Voilà, il faut du respect. Donc voilà, dans mes histoires de poésie, j'essaie d'envoyer des messages tout simples comme cela.
À vous entendre, j'ai ce sentiment que vous êtes en quête permanente de renouvellement.
Tous les 10 ans, je m'ennuyais, j'ai fait autre chose. Et puis, j'ai repris il y a une trentaine d'années le fil de ce que je voulais faire enfant, c'est-à-dire l'art. Donc, j'ai plus rien à prouver. Je fais ce que j'ai envie de faire et j'ai cette grande chance-là de pouvoir m'exprimer de cette façon. Que mon travail soit apprécié ou pas apprécié, je dois le faire. Comme disait Kandinsky, tout vient d'une nécessité intérieure, nécessité qui, voilà, je dois créer, je dois peindre, je dois sculpter, puisque je fais effectivement de la peinture, je fais de la sculpture sur terre, sur bois, hein, j'ai fait du métal, donc un peu de pierre aussi. Donc j'aime la matière. Ce que j'aime bien dans la matière aussi, c'est récupérer des choses abandonnées. Ne fût-ce que un morceau de bois, un tronc d'arbre au bord de la route, parce qu'il est moche. Donc plus il est moche, plus ça m'intéresse, puisque en sculpture, je considère que c'est un échange entre la matière qui envoie des messages et la main de l'artiste. Donc c'est un échange. Donc je fais ce qu'on appelle de la taille directe, c'est-à-dire la main suit le bois, par exemple. Donc le bois est un peu pourri, donc il faut s'adapter. Il y a une forme d'adaptation systématique et ça permet d'aller au-delà des choses qu'on pourrait prévoir dans la tête au départ. Donc il y a un côté magique dans cette façon de procéder et voilà, je me plais dans cette façon. Donc mon maître, qui est un vieux monsieur qui a 90 ans maintenant, qui habite en Bourgogne, travailler à Lille et effectivement travailler, récupérer plein de choses abandonnées et rendre des vies. Et je dirais que maintenant c'est un petit peu ma façon de travailler aussi, de rendre de la vie aux choses ou simplement avec des objets du quotidien montrer des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc puisque en fait la beauté est partout, il suffit de regarder. Donc j'essaie d'apprendre un petit peu aux autres à regarder.